jamais pu, ça arrive, ça, qu'un petit chubby puisse rentrer dans une salle de serveur avec une clé USB puis retirer toutes ces informations-là. Hey, dossier quand même assez sensible, Jeff, qu'on a parlé hier. On était plusieurs à être choqués du féminicide à Saint-Jérôme. Un suspect qui a été accusé 16 fois pour non-respect des conditions, qui a finalement tué une femme. Son nom, c'est Jonathan Blanchette. Et c'est un gars qui traînait un lourd passé criminel. Puis même s'il ne respectait pas ses conditions, ben on le remettait en toute liberté dans la nature. Puis finalement, ben il joue le vert, il l'a tué. Il a fini par la tuer. Puis, du temps où les conservateurs étaient au pouvoir avec Stephen Harper, on voulait durcir les sentences pour ces dits criminels-là. Et après ça, ben, les libéraux sont arrivés en disant « Ouais, nous, on croit un peu plus en la réinsertion sociale. » Donc, deux façons de voir les choses. N'en demeure pas moins que quand tu es une victime, tu dois pencher plus sur une façon de voir les choses que si tu n'as jamais été victime.
C'est clair. Ça change complètement la perception des jeunes.
J'ai eu cette chance-là. Moi, j'ai jamais été victime de ces individus-là. Mais pour les femmes qui vivent avec des gens violents ou qui ont un ex qui est extrêmement violent, qui ne respecte jamais ce qui avait été entendu, ça doit être stressant vivre en 2025.
Oui. Et on a eu des témoignages tellement poignants hier. Et merci aux auditrices qui nous ont écrit des femmes qui ont passé par là la violence conjugale ou des femmes que des amis qui ont passé par là. Et on nous expliquait avec des témoignages réels comment ces hommes-là réussissent à prendre le contrôle de la vie de la femme et faire en sorte que leur violence soit acceptée par ces femmes-là jusqu'à temps qu'il y ait un événement majeur. Mais là, malheureusement, l'événement majeur, c'est de plus en plus un meurtre.
On a le plaisir d'en jaser avec Pierre Paulus, député de Charlebourg, de la Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bon matin.
Bon matin, monsieur.
Rien de plus frustrant que voir ça dans l'actualité, un gars qui n'a pas respecté 16 fois les ordonnances et qui était toujours en liberté, puis finalement, ben, il en a tué une.
Ça n'a aucun bon sens, puis en plus que moi, ça me touche personnellement, parce que j'ai déposé un projet de loi il y a 3 ans qui demandait justement de créer des peines criminelles pour un bris de conditions de libération. Donc, un gars comme lui, là, qui a été arrêté 16 fois pour briser ses non-respect de sa libération, ben avec si mon projet de loi avait été adopté, accepté par les libéraux et l'NPD, ben il y aurait eu une autre accusation criminelle, puis ce gars-là se rend dedans aujourd'hui, puis il n'aurait pas tué ce fille-là.
Est-ce que le projet de loi C-5 nous a nuit? Puis expliquons, c'est quoi, M. Paulus, le projet de loi C-5? C'est que le gouvernement libéral a regardé les statistiques dans ses pénitenciers. Là, ils ont vu qu'il y avait une trop grande représentativité des personnes noires et des personnes autochtones. Donc, ils ont décidé, eux autres, qu'on veut enlever le racisme systémique. Donc, on voulait permettre à une personne noire ou une personne autochtone qui avait commis un crime quand même grave de pouvoir purger sa peine directement à la maison. Est-ce que ça nous a nuit, ça, à long terme?
Absolument, absolument. Ça a été démontré dès le début. Nous autres, on s'opposait à C5. On était sur le parti en 2022 qui a dit que ça n'avait aucun bon sens. Puis, parce que c'est ça la prérogative, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes racisées, de noirs, d'autochtones en prison. Nous autres, on disait, ben oui, mais c'est parce que là, c'est pas la race là, là-dedans. Ce qui compte, là, c'est le crime. Peu importe qui commet un crime, tu dois purger une peine de prison et non pas amoindrir les peines pour qu'il y ait moins de gens en prison. C'est quoi l'idée, là? Fait que ça l'a comme créé dès le départ. Dès que la loi a été mise en place en 2022, immédiatement, les gangs de rue à Montréal sont partis à rire. Les policiers nous l'ont confirmé. Ils ont dit, ils sont là puis ils se foutent de tout, là. Ils savent que s'ils sont arrêtés, ils vont avoir soit une peine à la maison ou une peine mineure, puis ça les dérange pas. Donc, la criminalité a commencé à augmenter à partir du moment que C5 a été mis en place. L'autre loi, des fois, qu'on parle moins, c'est C75, qui a été mis en place en 2019. Ça, c'est ce qui permet une libération de caution très facilement. C'est que les juges n'ont pas le choix. Quelqu'un est arrêté, puis en dedans de 2-3 heures, il est ressorti. Parce que c'est le principe de modération que les libéraux ont appelé. Donc, ils ont voulu faire ça pour aider, mais finalement, ça nuit. Parce que là, il y a un roulement, là, ça rentre, ça sort. Là. C'est des gens, des criminels comme ça qui ressortent dans 2-3 heures, sont retournés dans la rue, puis ils recommencent leur méfait. Donc, des lois C5 et C75, deux lois qui ont été mises en place en 2019-2022, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a une criminalité qui a augmenté, des gens qui se foutent du système. Puis, et c'est pour ça, moi, j'ai déposé une loi en 2023 pour défaire ça, défaire C5. Et l'autre partie, comme je disais au début de l'entrevue, pour mettre une peine criminelle à quelqu'un qui brise ses conditions de libération. Puis ça a été, les libéraux et le NPD ont voté contre. Donc, j'ai perdu, mon projet de loi n'a pas passé. Le Bloc, faut que je leur donne, le Bloc ont supporté, parce que là, ils s'étaient aperçus, eux autres, qu'ils avaient commis une erreur de supporter la loi C5. Donc, ils ont dit oui, on est d'accord avec toi, finalement. Ils m'ont supporté, mais on n'a pas eu assez de votes pour que ça passe. Et là-dessus, quand on avait des débats à la Chambre des communes, encore une fois, le NPD, surtout, disait que c'était raciste comme approche. Donc, voyez-vous, on était vraiment dans une espèce d'idéologie qui n'a rien à voir avec la sécurité publique.
Ouais. Pierre Paulus, parce que je veux revenir au projet de loi C5, là, le thinking des libéraux, c'est qu'il y a trop de représentativité des Autochtones puis des Noirs en prison. Le problème étant, mais en fait, c'est pas vraiment un problème, là, c'est que les juges ont dit, mais nous, on peut pas faire de différence entre des Noirs et des Autochtones, c'est pas un facteur atténuant. Les facteurs atténuants qu'on entend souvent en cour criminelle, c'est ben, il y a eu une enfance difficile, problème de drogue, toxicomanie, traumatisme du passé, patati et patata. Mais la couleur, c'est pas un facteur atténuant. Donc, dans ce cas-ci, l'homme qui a pas respecté 16 fois ses ordonnances, lui, la C5 l'a touché un peu. On pardonne peut-être un peu plus autant aux Blancs qu'aux Autochtones qu'aux Noirs. Là.
Ben absolument. En plus qu'en 2022, quand le C5 a été mis en place, la première personne qui a bénéficié de cette loi-là, c'est un Blanc.
Exact.
C'est un gars qui avait agressé sexuellement de façon grave son ex-conjoint. Puis ils sont arrivés en cours, puis on dit ben, fait qu'il s'est ramassé à la maison pour écouter Netflix au lieu d'aller en prison. Ça, c'était le premier cas, donc c'était même pas quelqu'un racisé. Là. Non, écoutez, c'est de façon très idéologique les dernières années, les 10 dernières années, vous savez que les libéraux, comment c'était. Puis ça a commencé. Même souvenez-vous de Marilyn Lévesque à Québec qui s'est fait tuer par Eustache Galaise en 2020.
Oui.
On a eu moi, j'ai fait faire une motion à ce moment-là à la Chambre des communes. On a eu une enquête au niveau du comité de la sécurité publique pour faire enquête sur la commission des libérations conditionnelles, parce qu'on s'était aperçu dans le cas de Marilyn Lévesque que Galaise avait bénéficié d'une libération conditionnelle, mais sans surveillance adéquate, avec des motifs qui ne tenaient pas la route. On s'est aperçu que les commissaires, les gens qui décident dans le fond si on libère quelqu'un ou pas, c'était des gens qui étaient nouveaux, qui avaient, parce que le gouvernement libéral avait purgé tous les commissaires qui avaient moindrement une sympathie conservatrice, avaient été mis dehors au Québec. On a remplacé ça par des gens sans expérience. Et donc, c'est des personnes comme ça qui avaient évalué le cas de Galaise, qui avaient fait en sorte que ce gars-là s'est ramassé dans la rue, puis qu'il a tué Marilyn. Et la même chose qui est arrivée, que je regarde, là, écoutez, là, j'ai pas de confirmation officielle, mais le cas de Jonathan Blanchette qui a tué Gabi Renault à Saint-Jérôme a été libéré aussi par les nouveaux commissaires qui avaient été mis en place par les libéraux à l'époque. Donc, il y a beaucoup de liens qui se font à un moment donné, que quand tu regardes ça, tu dis OK, une motivation de faire différent des conservateurs, d'arriver avec une approche très idéologique, ouais. Woke, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Là. On se ramasse aujourd'hui avec des drames comme ça puis une augmentation de la violence.
Monsieur Paulus, ma mémoire me trompe pas. Je me souviens de Stephen Harper qui voulait durcir les sentences pour les criminels qui en avaient à l'intégrité physique des individus.
Oui, absolument. On a toujours une approche là, de vraiment... on croit à la prévention, bien évidemment.
Tough on crime.
Ben oui. À partir du moment que tu as des criminels, ils vont pas faire une première infraction. Si après ça, ils font leur temps puis ils sont réhabilités, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des récidivistes, tu peux pas accepter d'avoir quelqu'un qui fait un coup, qui fait la prison, il ressort, il recommence. À un moment donné, il y a 2 semaines, Pierre Poilievre va sortir en disant 3 prises de te retirer. Ça veut dire que quand tu commets des infractions graves, quand c'est la 3e fois, là, c'est assez, là, c'est 10 ans minimum de prison, puis on veut plus t'en voir la face. Ça, faut aller vers ça. Monsieur Harper, il avait une approche tough on crime, parce que c'était comme, à un moment donné, faut que tu protèges les gens les plus sensibles de la société, les enfants, les femmes en priorité, même la charte des victimes. Monsieur Harper a pensé aux victimes. En 2014, ils ont créé la charte des droits des victimes. C'est M. Harper, Stephen Blaney à l'époque qui était ministre de la Sécurité publique, le sénateur Boisvenu et Peter McKay qui était ministre de la Justice. Ça a été mis en place. En 2015, les libéraux ont pris le pouvoir. Et depuis ce temps-là, jamais, on a affaire à la Charte des droits des victimes. C'est toujours la Charte des droits et libertés. Les criminels ont priorité. Les victimes passent toujours 2e. Ça, c'est un facteur que du côté conservateur, pour nous, c'est on travaille toujours du côté des victimes en priorité. Puis les criminels, ils veulent revenir dans le droit chemin, tant mieux. Mais quand ils décident d'avoir une vie de crime, ben, il faut qu'ils aillent en dedans. C'est là leur place.
Monsieur Paulus, est-ce que dans votre projet de loi, on parle aussi des libérations avant procédure? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes violents envers les femmes qui ne respectent pas justement ce qui est mentionné par la Cour de se tenir à distance de la victime.
Ben, c'est ça dans mon exactement dans la loi que j'avais déposée qui a été battue par les libéraux de l'NPD, la loi C-325, le projet de loi C-325, ça mentionnait justement que quand tu as des conditions, là, tes conditions, tu peux pas t'approcher à plus proche que 300 mètres, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ben, quand tu as des bris de conditions, actuellement, ce que j'ai appris quand j'ai écrit le projet de loi, c'est qu'il n'y avait pas de conséquences. Les policiers peuvent rien faire, ils vont simplement rapporter ça à l'agent de libération correctionnelle qui, dans 30 jours, va regarder ça puis qui va revenir et va dire « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça. » Fait que, il n'y a pas de conséquences. Donc, les policiers, moi, quand j'ai écrit mon projet de loi, j'ai consulté toutes les associations de police qui existent, les groupes de victimes, c'était unanime, il fallait faire de quoi. Mais malheureusement, nos amis libéraux ne pensent pas la même façon.
Allez-vous ramener ce projet de loi-là pendant cette session-ci
absolument,
ou à l'autre session?
C'est nous, comme députés, c'est un tirage au hasard, hein, vous savez. Fait que moi, j'ai eu la chance en 2022 d'être dans la liste des gens qui pouvaient déposer. Là, pour l'instant, je suis trop loin dans l'ordre. Par contre, j'ai peut-être un de mes collègues qui va reprendre le projet de loi, qui va pouvoir la faire cheminer. M. Poilievre est encore en conférence de presse hier matin. Je fais référence à ce projet de loi-là. Mm-hmm. Je fais toujours référence au projet de loi de Pierre Paulus. Donc, c'est quelque chose qui va suivre, c'est sûr.
Comment ça fonctionne à la grandeur du Canada, M. Paulus? Vous êtes député de Charlebourg, Haute-Saint-Char pour le Parti conservateur du Canada, vous êtes à la Chambre des communes à Ottawa, vous côtoyez d'autres députés, vous voyez ce qui se passe dans les autres provinces aussi au niveau de la justice. Qu'est-ce qui est du ressort du Canada? Qu'est-ce qui est du ressort du provincial pour ce qui est de la protection du public? Au municipal, on le comprend, là, ça nous touche au day-to-day, mais au provincial, fédéral, c'est quoi les tâches de chacun?
Ben, le fédéral, c'est le code criminel. C'est à Ottawa qu'on change ou qu'on modifie le code criminel. Donc, c'est à partir du code criminel que les juges peuvent donner des sentences, donner des accusations. Puis la police peut porter des accusations. Ben, les procureurs, c'est-à-dire, peuvent donner des accusations. Donc, le fédéral, la priorité numéro un, c'est de s'assurer que le code criminel est efficace. C'est ce que les libéraux n'ont pas fait. Ils ont diminué la force du code criminel. Après ça, tu te ramasses au niveau des provinces. Les provinces, eux, s'occupent de la police, des cours de justice. Mais là, quand tu arrives avec une arrestation, là, le juge doit prendre une décision en fonction de ce qui a été voté, décidé à Ottawa. C'est comme ça que ça fonctionne. Le fédéral, l'importance est critique au niveau du code criminel pour qu'on donne les outils aux policiers, aux juges dans les provinces de faire leur travail. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Un policier va faire une intervention, une arrestation, puis quand il voit que la personne qui a arrêté 2 heures après est libérée, ils sont complètement démolis parce qu'ils se disent pourquoi on fait ce travail-là, nous autres on fait rire de nous autres à chaque fois. Ouais. Fait que c'est pour ça que nous, on veut ramener un code criminel plus fort, plus solide, qui fait en sorte que quand tu arrêtes quelqu'un qui mérite de rester en dedans, ben, qu'il reste en dedans.
Les juges sont indépendants, doivent être libres de penser, on ne doit pas mettre de pression sur les juges, mais est-ce que c'est vrai que dans l'Est du Québec, les juges sont plus soft on crime plutôt que dans l'Ouest du Québec, dans l'Ouest du Canada, où ils seraient plus tough on crime?
Ça dépend des niveaux de cour, mais les cours fédérales, tout ce qui est cours fédérales, c'est sûr que dans les dernières années, des juges qui ont été nommés, c'est des juges nommés par Justin Trudeau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de juges qui sont très plus tolérants, je dirais, plus à gauche dans leur philosophie. Donc, vont prendre, c'est sûr qu'on doit se travailler avec le code criminel, le code pénal, mais il reste que dans l'application, si tu donnes une marge de manœuvre dans le code criminel, par exemple, je sais pas, moi, on dit une peine pour telle infraction peut être de 1 an à 5 ans, ben, il y a des juges plus libéraux qui vont donner 1 an. Tandis qu'un juge plus conservateur va peut-être dire « je vais donner 3 ou 4 ans », dépendamment de la... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, on a une magistrature très libérale actuellement, ce qui fait en sorte que, raison de plus, de pouvoir ramener un code criminel plus fort, que là, le juge n'aura pas le choix. Si on dit c'est un minimum 3 ans, ben, à un moment donné, il n'aura pas le choix de dire « OK, c'est 3 ans » et non pas 1 an. L'administration de la justice est complexe, mais il reste que nous, d'un point de vue de comme législateur, notre travail, c'est de s'assurer d'avoir... vraiment un code criminel qui fait en sorte que les juges, c'est l'outil qu'ils vont servir pour prendre leurs décisions et que l'outil ben, doit être beaucoup plus solide que ce qu'on a actuellement.
Oui, parce que d'un point de vue extérieur, M. Paulus, quand j'ai la chance de travailler avec Maître Marc Bellemare à chaque lundi soir sur les ondes de boulevard, puis lui, il me mentionne souvent, parce qu'il y a des dossiers d'IVAC, il mentionne souvent que les services d'aide sont pas mal plus souvent du côté des criminels que des victimes, et ça l'a toujours fâché. À un moment donné, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Là. Puis à la limite, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de services pour les victimes que pour les criminels, même si je crois aussi en la réinsertion sociale de ces gens-là, parce qu'après 10 ans, après 15 ans, 20 ans, ils doivent revenir en société, puis il faut qu'ils soient le moins dangereux possible. Donc, un emploi, un bon emploi, un toit sur la tête, c'est, ça va faire en sorte qu'ils vont rester loin de la criminalité.
Pour absolument. Les... C'est la priorité numéro un, comme je disais tantôt, des conservateurs. C'est de protéger d'abord et avant tout les victimes. Mm-hmm. C'est ce qui s'appelle actuellement.
Pour les victimes d'actes criminels, il y a une réforme présentement au Québec qui ne fait pas nécessairement le bonheur de tous, notamment chez les femmes qui ont été violentées. Est-ce que le gouvernement fédéral ou le Parti conservateur a des discussions chemin avec la CAQ là-dessus?
Actuellement, vous savez, on est dans l'opposition, donc on a moins de discussions sur des que le gouvernement peut en avoir mm-hmm. entre gouvernements. Mais il reste que là-dessus, ça relève de Québec, donc on est moins impliqué dans ces situations-là. Mais pour nous, l'ensemble de ce qui est gestion de droits de victimes, de protection des victimes, ça nous interpelle. Donc, faudrait voir, mais non, dans ce dossier-là, on n'est pas impliqué.
Puis vous avez beaucoup parlé de Justin Trudeau, fait référence aux politiques de Justin Trudeau. Sentez-vous une différence avec Mark Carney au niveau de la loi et l'ordre, ou c'est la même chose que Justin Trudeau?
Ben là, Mark Carney, en campagne électorale, a promis qu'il allait faire un changement drastique à ces lois-là. Donc là, depuis 6 mois que les libéraux sont en place avec M. Carney, il n'y a absolument rien qui a été déposé. Hier, on avait une journée de débat là-dessus. On a un de mes collègues aussi qui a un projet de loi qui a été déposé. Puis on demande au gouvernement de l'accélérer puis de l'accepter. Les libéraux n'ont pas voulu, mais on nous répondait « On va vous arriver bientôt avec un projet de loi compréhensif. » Fait que là, on est encore dans des beaux mots libéraux. Là.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, là? T'sais? Puis, moi, quand j'ai fait un discours hier, un des secrétaires parlementaires m'a répondu qu'on avait juste des slogans, puis on voulait faire peur aux gens. Là, je lui ai répondu vraiment fâché en disant hey, écoute, ben là, je pense que vous voyez pas la réalité du terrain, vous voyez pas ce qui se passe au Canada là, pour dire qu'on veut faire peur aux gens. Les gens ont peur, et avec raison. Mm-hmm. On est là pour s'en occuper, là, c'est notre travail. Donc, non, on verra s'il y a de quoi d'intelligent qui va arriver, mais M. Carney, hier, à la Chambre des communes, était et les libéraux, quand on a vraiment passé à l'attaque au niveau de la protection des victimes et le combat au crime contre le crime, puis il y avait M. Carney, je pense que c'est un milieu qu'il connaît vraiment pas, il a regardé le plancher et il savait pas trop où aller avec ça. Donc, on verra. Mais on espère, on met de la pression de notre côté pour que ça change, parce que l'époque Trudeau, c'est catastrophique et on espère au moins que là-dessus, M. Carney verra la lumière.
Monsieur Pierre Paulus, merci.
Merci à vous.
Au revoir. Bye-bye. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. On parlait de la hausse de la criminalité et on parlait aussi de cet individu qui a fait la manchette hier, qui en a tué une. 16 ordonnances
ouais.
qu'il a carrément violées. Il se foutait éperdument des ordonnances de la Cour. Puis il a fini par la tuer. Audrey Pinchot est dans le studio depuis plusieurs minutes. Là. Audrey, tu te sens-tu encore en sécurité au Québec en tant que femme?
Oh mon Dieu, c'est une grosse question. Ça.
Parce que c'est facile d'avoir un billet pour nous autres parce qu'on est constamment dans l'actualité puis on parle toujours d'histoires d'horreur de ce type-là. Ouais. Mais toi, quand tu es dans ta vie ordinaire, là, tu y penses-tu à ces gars-là hyper toxiques, hyper violents? Puis le fait que ça se peut que même si tu te plaignes à la police, que ce gars-là passe devant un juge, il puisse se retrouver dans ta face puis être relâché par la suite sans aucun problème?
Ben, tu sais, je veux pas que ça sonne alarmiste comme propos, mais j'ai pas le choix de te dire que j'ai le sentiment que moi, j'ai été élevée puis j'ai vécu à travers les années avec un entourage où on a toujours le réflexe de vouloir se protéger, regarder derrière nous quand on marche dans la rue le soir ou même en après-midi, regarder qui nous entoure, qui sont les hommes autour de nous quand on parle de violence tout court, je vais te dire. Fait que est-ce que je me sens en sécurité? Ben, je vais te dire que dans mon day-to-day, oui, mais si tu me mets, par exemple, à Montréal, tout seul, un après-midi, à aller prendre une marche ou à... Non, j'ai toujours le réflexe quand même de me poser des questions. Les gens que je côtoie, tu sais, là, c'est niaiseux, mais nouvellement célibataire depuis une couple de mois, là, les gens que je croise ou qui m'abordent ou que j'aborde, ou j'ai toujours le réflexe de vouloir aller faire un petit check-up, un petit background,
good
de
job.
M'informer auprès de gens qu'on a en commun, peut-être sur les réseaux sociaux, mais c'est pas normal.
Non, mais au-delà de ça, ben oui, ben oui, non.
On le fait aussi pour différentes raisons.
Au-delà de ça, ouais, toi, c'est pour watcher, là. Mais Audrey, au-delà de ça, faire une recherche Google sur l'individu.
Oui, mais c'était épouvantable quand t'as pas le choix.
Après ça, tu vas à la centrale de police de Québec, on en a une, là, en Basse-Ville de Québec, sur le coin de la rivière Saint-Charles. Il y a 4 ou 5 postes qui sont là, disponibles pour toutes les femmes qui veulent faire des recherches sur des individus. Tout ce que ça vous prend, c'est son prénom, Max Larouche. Fox. Puis là, vous allez voir les dates de fête qui vont sortir puis les dossiers qui sont là. Et ça, c'est tout à fait gratuit.
Hey, je ne savais pas ça, Yann.
Et sinon, il y a d'autres trucs aussi. Des fois, ça demande un abonnement, des fois non. C'est des décisions qui ont été prises par la cour. C'est pas la cour criminelle, par contre. C'est la cour civile où l'individu, ben, s'est fait... Il est en manquement de paiement sur plusieurs trucs. Puis il y a des décisions qui sont prises, donc nécessairement, ça va être inscrit aussi.
Mais t'imagines-tu comment c'est nul de devoir te rendre là? Tu sais, il me semble que c'est censé être beau, puis le fun, puis naturel,
mais
rencontrer
les
du monde,
sont
puis vivre. Oui, les outils sont là, puis une chance qu'ils sont là. Mais tu sais, j'écoutais la conversation que vous aviez dans les dernières minutes, puis tout ce qui touche, en fait, la violence conjugale, j'ai tellement de la misère avec ça. Tu sais, dans les derniers jours, il y a un article qui sortait dans le Journal de Montréal, il y a une femme de la Montérégie qui estime que le système est tellement pas en mesure de la protéger de son ex-conjoint violent qui vient de sortir de prison.
Elle change de pays.
Elle a décidé de quitter le pays.
Mm-hmm.
Et c'est-tu débile quand c'est toi, qui n'est pas le problème, là?
Oui, puis il faut travailler en amont.
Aller.
Il y a un auditeur qui m'a fait penser à ça, puis je pense qu'on en avait déjà parlé avec Jeff. Il faut travailler en amont aussi pour ces hommes-là qui ont un taux de toxicité hyper élevé. Tu sais quoi? Je pense qu'ils sont les premiers au courant, puis ça prend des services d'aide pour ces gens-là.
Ouais, je te trouve bon, par exemple, parce que moi, tout ce qui est réinsertion sociale, j'y crois, mais j'y crois pas autant que toi. Moi, j'ai l'impression que quand tu as la force de violenter quelqu'un physiquement et mentalement en dedans de toi, c'est pas quelque chose qui va sortir de ta personne un jour, là. Ça va toujours faire partie
mais
de toi.
Apprendre à te contrôler, avoir les outils pour te contrôler. Donc, tu sors de prison après 2 ans, moins un jour, mettons, d'Orsainville, t'es obligé de passer par ces thérapeutes-là qui sont des spécialistes des hommes violents.
Ce serait la base.
Pour te complètement te décharger. Puis si jamais t'as une montée d'adrénaline puis tu veux frapper sur quelqu'un, t'ouvres ta boîte à outils.
Mais on peut-tu prévoir?
Voici ce que mes... c'est avec ça. C'est avec ça. Travailler en amont constamment.
Oui, parce que je me dis, t'as bien beau faire une réinsertion après du temps en prison. J'ai vraiment de la misère à croire à ça. Mais sais-tu pourquoi ces gens-là sont violents?
Quelqu'un qui me dit, travailler en amont, couper la courge.
Ouais. C'est un peu drastique, là.
Ouais.
Quoique je suis drastique dans ce genre d'affaires-là, fait que j'aille pas la suggestion. Non, mais je me dis, pourquoi ces hommes-là, il y a des femmes aussi en passant là, qui font de la violence conjugale,
ouais, ouais.
Il y a une majorité d'hommes, par exemple, mais pourquoi ces hommes-là sont violents? C'est-tu un passé, c'est-tu un besoin d'aide qui n'a pas été rempli? Tu sais, travailler en amont, mais on manque de ressources.
Mauvaise gestion
des
émotions aussi qui peut apparaître vraiment.
Mais c'est comme dur parce que j'ai le sentiment que chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on tourne en rond. Parce qu'on dit qu'on les a, les solutions, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources.
En effet, malheureusement, il n'y a pas assez de ressources d'aide pour les hommes qui sont violents. Ça, c'est clair. Tu sais, on vient d'en parler avec Pierre Paulus. Il n'y a pas assez de répression qui sont faites à ces hommes-là quand ça fait 16 fois que tu ne respectes pas tes conditions, tu sais, à voyant dedans.
Et puis c'est une joke. Après 2-3 fois, ça fonctionne, ton affaire, tu te dis que rendu là, 4, 5, 6, 7, on s'en fout.
Exactement, rendu là, il n'y a pas de problème. Fait que tu sais, je pense que c'est un... Je vais faire une comparaison là, peut-être boiteuse, mais avec l'itinérance, c'est un dossier très complexe. Il n'y a pas une solution unique. C'est un ensemble de facteurs sur lesquels il faut travailler, mais il manque plein d'éléments dans chacun des facteurs, dont la répression et la prévention.
Oui, puis parler, c'est facile à dire pour quelqu'un que j'ai été agressé, c'est mon cas, mais parlez-en le plus possible à votre entourage.
Ah oui.
Vous avez toujours des gens qui sont là, qui veillent sur vous, qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous accueillir à la maison. Des fois, on a l'impression d'être un boulet là, quand on est une victime et on a besoin d'aide. Bien, savez-vous quoi? Les gens préfèrent vous avoir avec eux, chez eux, que de vous voir morte dans un cercueil, comme c'est le cas de la femme dans le secteur de Montréal qui a été tuée par cet individu, ce salopard-là, qui n'a jamais respecté la justice. Puis que finalement, ben, il va probablement quoi? Il va pogner 15 ans, 20 ans? On va prendre des facteurs atténuants, pauvre petit. Tu sais, il y avait de l'alcoolisme, il y avait de la drogue aussi.
Ah, ça m'écarte.
Il y a eu une enfance qui était difficile.
Hey, ça, là, on peut-tu mettre ça de côté, l'enfance difficile? Il y a tout le monde qui ont des enfants épouvantables qui s'en sortent foutument bien. Puis j'ai envie d'ajouter un point à ce que tu dis, Yann. Là, ça me met le faux au cul, ce genre de sujet-là. Là. Si vous remarquez quelqu'un dans votre entourage qui a des comportements agressifs, j'ai déjà croisé quelqu'un dans ma vie comme ça, moi, qui je voyais qu'avec des femmes dans son entourage, il était un peu rough, il était un peu très égocentrique à la base comme individu aussi, là, mais ça se lève, ces flags-là. « Hey, mon homme, me semble, tu rochants, ça te tente pas de terminer en prison? Ça te tente-tu d'aller chercher de l'aide avant qu'il arrive de quoi? »
Excellent point.
Je pense que de le faire à l'inverse aussi, ça peut peut-être aider dans cette prévention.
Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont pas toxiques. Il y en a des femmes qui sont toxiques, qui sont des problématiques. C'est important de le mentionner parce qu'à chaque fois, on a des commentaires comme ça. Des deux côtés, il y a des gens qui sont toxiques. Le problème étant que très souvent, quand c'est l'homme, il y a plus de danger au niveau physique. Mais au niveau mental, je pense que ça peut s'équilibrer d'un bord comme de l'autre. 418-971-1021, 418-971-1021. Max, avant de te laisser quitter, y a-t-il des choses qu'on doit savoir?
Dans l'actualité, ben, en fin de semaine, sur les routes, ça risque d'être difficile. Fait que c'est sûr que n'importe qui va être dans la région en fin de semaine et qui risque de prendre la route va vouloir savoir que le pont de Québec va être fermé à la circulation automobile pour des travaux de ce soir 19h à demain matin 7h. Le boulevard Laurier va être fermé en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue La Vigerie de ce soir 20h à lundi 6h. Puis y a le marathon Bénévo de Québec en fin de semaine qui va recevoir pas moins de 17 000 coureurs. Au cours du week-end, autant demain que dimanche, les participants qui vont se réunir dans le secteur du centre Vidéotron, mais quand même plusieurs quartiers en raison du parcours qui seront affectés, Limoilou, Saint-Sauveur, Vieux-Québec, Montcalm, Saint-Sacrement, Saint-Roch et d'autres secteurs centraux. Des artères majeures qui vont être affectées. Grande Allée Ouest, boulevard Wilfrid Hamel, chemin Saint-Louis, rue du Quai Saint-André, boulevard Champlain et d'autres axes centraux.
Marceau le matin.